Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Akira Kurosawa. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Akira Kurosawa est peut-être le plus célèbre des cinéastes asiatiques, je dirais des cinéastes classiques, puisqu'aujourd'hui les distributeurs français vont présenter beaucoup de films asiatiques. Pour citer un cinéma particulier qui est souvent diffusé en France, le cinéma coréen, il y a un réalisateur qui a eu un succès puisqu'il a été à la fois Palme d'Or à Cannes et Oscar du meilleur film en 2020. Et vous avez peut-être vu son film qui s'appelle Parasite, Bong Joon-ho. Ce réalisateur a réalisé aussi d'autres très bons films. En 2003, Memories of Murder. En 2006, Os. En 2009, Mother. Donc ce cinéaste a une œuvre vraiment très forte et avec des thématiques qui peuvent revenir. Une dimension fantastique dans The Host par exemple et une dimension très psychologique dans d'autres films, mais avec de l'action. Parasite, on peut le dire sans dévoiler la structure totale du film pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je le recommande fortement. Il y a un scénario qui part avec une histoire plus ou moins familiale. Et tout d'un coup, au milieu, il y a un renversement de situation totalement inattendu et qui fait basculer le film dans un autre domaine. Donc, les cinéastes asiatiques sont largement diffusés. Parmi les autres films coréens, j'en cite un parce que c'est une parodie, Le Bon, la Brute et le Cinglé de 2008. Et un autre qui est un film fantastique, Dernier train pour Busan. C'est un film avec des morts-vivants, un train qui roule et les morts-vivants qui sont là présents pour essayer donc de rendre les différents individus accros, si je puis dire, et devenir eux-mêmes des morts-vivants. Donc, un cinéma asiatique qui est de plus en plus diffusé, là j'ai cité les films coréens, mais il y a aussi des films d'autres nationalités, thaïlandais, chinois, japonais. Alors japonais, un cinéaste moderne des années 90-2000 qui a tourné pas mal de films, c'est Takeshi Kitano. Et son œuvre a aussi une thématique assez récurrente, en particulier à travers la description de la mafia, des mafieux, ces yakuza qui sont tatoués, si je peux dire, sur tout le corps, et qui vont parfois subir une peine, c'est-à-dire on se coupe le petit doigt pour réparer un affront qui a été fait. Donc cinéma japonais qui comprend ce réalisateur. Et là, je veux revenir sur Akira Kurosawa, qui est le réalisateur classique, celui qui a révélé le cinéma japonais. En fait, dans les années 50-60, il y a deux cinéastes connus pour des films qui sont à petit budget. Kenji Mizoguchi d'abord, avec une reconnaissance assez tôt, puisqu'au début des années 50, il est présenté dans les festivals. Et donc, Conte de la Lune Vague après la pluie, c'est en 1953, donc c'est son film le plus connu à ce moment-là. Mais il tournera aussi Les Amants crucifiés en 1954. Et son dernier film, qui est quand même assez original, dernier film 1956, La rue de la honte, où l'on suit la vie de prostituée dans une maison de passe, donc dans un bordel. Donc Mizoguchi a une dimension fantastique, psychologique. L'autre cinéaste connu du trio, si je puis dire, Mizoguchi, Ozu, Kurosawa, c'est donc Yasuhiro Ozu, qui est reconnu plus tard que Mizoguchi, même s'il a tourné avant, et qui arrive à avoir une portée universelle avec des films qui ont une atmosphère très quotidienne. Donc les rapports familiaux sont dépeints, le père, la fille, est-ce qu'elle va rester avec lui, est-ce qu'elle va se marier, voyage à Tokyo, quelle est la place des anciens dans une maison de leurs enfants, toutes les difficultés, je dirais, quotidiennes, qui font que le cinéma de Ozu est vraiment universel. Et donc le cinéaste d'aujourd'hui, Akira Kurosawa, qui est proche du cinéma anglo-saxon par sa façon de filmer, qui est, on pourrait dire, plus hollywoodienne dans son approche. Et donc, le film le plus célèbre, c'est Les Sept Samouraïs. Donc, on va partir de son film le plus célèbre, qui est donc Les Sept Samouraïs. Mais avant, on va peut-être écouter la musique des Sept Samouraïs. Les Sept Samouraïs, donc œuvre la plus célèbre de Kurosawa, lorsqu'elle est diffusée dans le monde entier. Alors antérieurement, il y avait eu le film qui s'appelle Rashomon, qui avait été révélé dans des festivals, mais Les Sept Samouraïs en 1954 va connaître un succès très important. Alors on peut dire que ce film avait été tourné dans la difficulté, puisque Kurosawa avait besoin d'un budget très élevé pour avoir un résultat qui est absolument fantastique. Et les producteurs avaient du mal à le suivre. Donc il a réussi à imposer le tournage de son film avec des conditions de tournage très difficiles. Par exemple, la dernière scène, c'est un combat dans la boue avec la pluie qui tombe, les samouraïs, leurs ennemis qui piétinent, qui tombent, etc. Et cette scène a eu beaucoup de mal à être tournée dans la mesure où il y avait cette situation très délicate, d'acteurs qui étaient enlisés et les techniciens eux-mêmes étaient dans une position difficile. Donc, film qui, quand il sort, va, je dirais, presque percuter au plan international. Le public est présent et on assiste à le scénario suivant. C'est un village qui est attaqué par des bandits et des villageois vont essayer de chercher des combattants, des samouraïs, pour essayer de les défendre. C'est tout le problème qui se pose du paiement de ces samouraïs. Et ils vont réussir à sensibiliser celui qui sera le chef des samouraïs, qui va les recruter, en leur faisant parfois miroiter un salaire ou d'autres choses. Et il va réussir à emmener ces sept samouraïs sur place, alors même que le prix qu'ils avaient perçu, les samouraïs, était absolument ridicule. Et donc il y a régulièrement des attaques des bandits, des réponses des samouraïs. On va fortifier le village. Il y aura des combats dans lesquels les samouraïs pourront vaincre une partie des bandits. Et puis donc dans la séance finale, ils pourront les tuer eux-mêmes, comptant un certain nombre de morts. Donc Les Sept Samouraïs a vraiment été un film d'action. Sauf qu'il n'est pas tout à fait cela, parce que Kurosawa a toujours dans ses films de la réflexion. L'explication de cette situation va passer par une diffusion à deux moments du film. C'est-à-dire que le film sort en 1954, il dure 2 heures, et on retient principalement les combats qui vont se dérouler entre les bandits et les sept samouraïs. Et Une vingtaine d'années après, sort la version que Kurosawa aurait souhaitée, parce que les producteurs, comme souvent, l'ont forcé à ne pas dépasser 2 heures, et on présente une version qui fait 4 heures. Alors vous allez me dire, 4 heures, c'est peut-être quand même un peu ennuyeux. Eh bien, pas du tout. En effet, ce qui est montré pendant cette durée, ce sont les rapports entre les samouraïs et les paysans. Et cette thématique conduit Kurosawa au constat suivant. Les samouraïs passent sur la terre, se battent et ne laissent aucune trace, et les paysans, eux, enlisés dans la boue, vont cultiver la terre, vont rester sur place et vont se perpétuer. Et donc c'est l'opposition entre celui qui s'engage dans le combat et qui n'a pas de racines, et le paysan qui, lui, a des racines et peut vivre en famille, et même s'il combat, il y a une solidarité familiale, une solidarité dans le village. Donc cette réflexion sur le rapport entre ce qui passe et ce qui reste est tout à fait passionnante et explique pourquoi le film a été diffusé une vingtaine d'années après dans sa version de 4 heures, qui est celle qu'il faut voir parce que le film est plus équilibré, plus complet, plus abouti. Alors il y a un acteur que l'on est obligé de citer dans Les Sept Samouraïs, personnage principal, qui est Toshiro Mifune. Toshiro Mifune a fait 16 films avec Kurosawa, 16 films. Et il avait déjà fait 6 films avant de tourner Les Sept Samouraïs. Et le succès de cette œuvre va faire de Toshiro Mifune l'acteur japonais qui sera le plus réclamé au plan occidental dans le cinéma hollywoodien. Et il va jouer des dizaines de rôles et être distribué dans des films d'action, des westerns, etc., etc. Cette célébrité ne sera jamais dépassée par aucun acteur, sauf peut-être celui que je citais tout à l'heure en tant qu'acteur et réalisateur, c'est-à-dire Takeshi Kitano, qui lui donc tourne les films, mais va aussi les réaliser. Et Toshiro Mifune avait réalisé un film. Donc un acteur qui connaît une explosion dans sa cinématographie future, et des acteurs qui sont vraiment très bons, notamment le samouraï le plus ancien, qui jouera aussi dans d'autres films avec Kurosawa. Alors, le succès des Sept Samouraïs va entraîner un certain nombre de remakes. Les remakes en Asie, mais surtout, bien sûr, le remake aux États-Unis, qui est peut-être le plus célèbre, c'est-à-dire en 1960, le réalisateur John Sturges tourne Les Sept Mercenaires. Et Les Sept Mercenaires, en dehors de Yul Brynner, qui est à peu près connu, et Steve McQueen aussi pour une série télévisée au nom de la loi, on va voir les seconds rôles comme James Coburn, comme Robert Vaughn, comme Charles Bronson, qui vont trouver là aussi, je dirais, un tremplin pour une carrière future. Donc Charles Bronson trouvera une carrière dans laquelle il fera des films, je dirais, pas très recherchés, des films d'action, avec des réalisateurs souvent secondaires, qui font que on ne peut pas dire qu'ils soient restés dans l'histoire du cinéma. Ils restent célèbres, mais pas un pilier. James Coburn aussi aura fait des films d'action. Il sera dans Il était une fois la Révolution. Et d'ailleurs, on peut rappeler à ce propos, faire une parenthèse que vous ne savez pas, c'est que Pour une poignée de dollars de Sergio Leone s'inspire d'un film de Kurosawa. Et il y a eu des recours juridictionnels. Kurosawa a obtenu de diffuser le film en Asie et donc de gagner un petit peu d'argent là-dessus. Mais je reviens sur les sept mercenaires. Donc, il y a eu aussi en 1960, non, en 2018 à peu près, un film de Antoine Fuqua qui s'appelle aussi Les Sept Mercenaires, mais avec d'autres acteurs bien sûr, et notamment Denzel Washington qui fait le personnage principal. Donc, Les Sept Samouraïs, clé de l'œuvre de Kurosawa, qui va lui apporter donc une célébrité totale et absolue. Alors on va poursuivre avec d'autres films, mais pour le moment je vous donne à écouter la musique d'un film sur lequel je reviendrai, qui s'appelle Derzo Uzala, qui est un des plus beaux films de Kurosawa et un des plus beaux films qui a jamais été tourné. Donc Derzo Uzala. Donc, je cite aujourd'hui plutôt les films de l'auteur, et je verrai tout à l'heure si on a le temps d'évoquer sa vie ou sa biographie, si je puis dire. Il commence à tourner en 1943, le premier film, La légende du grand judo. Et ce qu'il y a d'intéressant, je dirais pas de curieux, mais pour l'époque c'est un petit peu curieux, c'est qu'il va donner dès le départ une place à la femme. Alors ça ne sera pas toujours le cas, mais le film de 1944, pardon, qui s'appelle Le plus beau, a comme héroïne une femme. De même, 1946, je ne regrette rien de ma jeunesse, c'est la même chose. Donc c'est quand même intéressant de voir un cinéaste qui donne une place, même à cette époque-là, à la femme. Alors après, je vais m'arrêter sur des films qui sont je dirais particulièrement intéressants. Je ne peux pas citer la trentaine de films qu'a tourné Kurosawa, donc je sélectionne. Les Sept Samouraïs, c'est le plus célèbre. Après, nous avons en 1949, Cher enragé. Alors là, c'est vraiment un film d'action. Là encore, je dis à l'américaine, mais c'est un petit peu excessif parce qu'il y a son particularisme personnel à la fois et particularisme japonais. Chien enragé, c'est un policier qui se fait dérober son arme et qui va en permanence au cours du film essayer de la retrouver. Donc on le voit circuler à droite, à gauche, il essaie de trouver, il pense avoir trouvé, il échoue, il repart. Donc Chien enragé, film policier qui est novateur et qui est vraiment prenant, très 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 prenant. Alors après, en 1950, on a Rashomon. Rashomon, là aussi, qui a un particularisme sur la manière de tourner et de présenter les personnages et l'action. Donc, un film qui intéresse ou qui interpelle par sa structure. Alors, il fait une adaptation littéraire ensuite en 1951, mais L'Idiot. L'Idiot, donc, parce que finalement, il connaît la littérature dans tous les domaines, que ce soit occidental ou russe. Alors, on arrive à un film sur lequel je vais m'arrêter, qui est le film Vivre de 1952. Alors, c'est un film passionnant, parce que, à mon avis, c'est le meilleur film tourné sur l'administration. Je m'explique. On suit un personnage qui est près de la retraite, et il est dans une administration où toutes les demandes sont repoussées et rejetées. On a une scène presque amusante au début. Quelqu'un veut présenter un projet. Il arrive à un guichet. Il évoque ce qu'il souhaite faire. Et on le renvoie à un autre bureau. À un autre bureau, il va faire de la même manière un exposé, une présentation. On le renvoie à un autre bureau. Et on voit que la technique de cette administration japonaise, c'est finalement de ne rien faire et de renvoyer à l'un et à l'autre afin que celui qui présente un projet soit découragé. Alors ce personnage qui arrive à la retraite décide à un moment donné de soutenir un projet. Il fait en quelque sorte un effort, il va contre la routine administrative, et il soutient la mise en place d'un jardin d'enfants dans un quartier de la ville, avec balançoire, etc. Donc ce projet est très difficile à mettre en place. On a une scène aussi un soir qui est assez particulière. Les membres de l'administration se réunissent, ils boivent. On sait que les Japonais boivent pas mal de saké et passent des soirées où ils commencent à être un petit peu ivres. Et là, dans leur ivresse, ils vont proclamer « Oui, nous allons faire ceci, oui, nous allons faire cela, nous allons faire évoluer, tout va changer, etc. » Le personnage principal, donc le retraité, va mourir sur une balançoire de ce square pour enfants. Donc déjà, idée intéressante. Et scène finale, on voit à nouveau un personnage, un citoyen, qui vient présenter un projet. Alors le premier des administratifs qui est touché par la demande hésite, puis renvoie. Et on comprend que toutes les belles résolutions qui avaient été proclamées lors de cette soirée sont abandonnées. Et il va de l'un à l'autre, et on a une scène finale avec un mouvement de plan qui est absolument extraordinaire et qui symbolise toute l'administration bloquée, toute la bureaucratie. On a derrière un bureau un fonctionnaire à qui une demande est faite. La caméra se trouve au niveau de la tête du personnage, et puis quand le personnage refuse ses projets, on voit la caméra qui descend lentement devant les dossiers et le fonctionnaire disparaît derrière ces dossiers. Et cette image symbolique est vraiment très forte et on n'a jamais montré aussi bien la manière dont l'administration est bloquée dans son travail et ne souhaite pas le faire. Donc voilà pour ce film qui est vraiment passionnant. Et on va écouter la musique d'un film que je vais voir tout à l'heure. C'est Kagemusha. Kagemusha qui est un film de 1980, lorsque Kurosawa relance sa carrière à travers des films financés par des fonds américains. Derzu Uzala, un des plus beaux films de Kurosawa et un des plus beaux films au monde. C'est un film sur l'environnement, entre guillemets, avant l'heure. C'est un film de 1975. Quel est le sujet? On a un personnage qui vient faire des relevés dans la taïga, essayer de voir telle et telle structure ou telle possibilité. Et il tombe sur un chasseur. Le chasseur, c'est Derzouzala. Derzouzala qui tue des bêtes, mais essaie de les utiliser dans leur intégralité. Il va leur rendre hommage quand il les tue. Donc, c'est un personnage qui est fondu dans l'environnement, qui le connaît absolument, qui le respecte et qui va parfois tuer certaines bêtes. Il y a une amitié très profonde qui va naître entre le personnage de Derzouzala et celui qui devient son ami. Il va revenir plus tard, ce personnage principal, et retrouver Derzouzala. Il y a plusieurs scènes qui sont extraordinaires. Il y a une tempête. Et tout d'un coup, Derzouzala commence à ramasser des branches et à les entasser. Et on comprend après qu'il va mettre en place une protection pour que son ami et lui-même puissent survivre. La fin est absolument catastrophique pour le personnage, c'est-à-dire que il perd la vue et il ne veut pas le montrer. Puis, effectivement, son ami se rend compte qu'il perd la vue et il essaie de le protéger. Mais ce chasseur va finir finalement sa vie de manière plutôt triste. Donc, Derzouzala, le plus beau film de Kurosawa, peut-être, il y en a beaucoup d'autres, mais peut-être celui-là est le plus beau. Et en tout cas, un des plus beaux films qui existent sur, on pourrait dire, l'écologie avant la lettre. On peut citer encore un film ou deux, Kagemusha et Ran. Kagemusha, Palme d'or à Cannes, 1980. En fait, Kurosawa n'a plus les budgets pour financer ses films, mais il va réussir à mobiliser des cinéastes américains qui connaissent l'ensemble du cinéma, comme Martin Scorsese, et qui vont chercher des fonds pour qu'il puisse réaliser Kagemusha. Kagemusha, c'est un sujet qui a parfois été présenté dans les films. On a un personnage principal, un roi, un chef. Et on va demander à une personne qui lui ressemble, un sosie, de jouer son rôle à certains moments. Sauf que le roi est tué et que cet individu, on pourrait dire de bas étage, qui prend sa place, va prendre son rôle très au sérieux. Il va devenir le roi et essayer de poursuivre l'œuvre qu'il a pu effectuer. Donc c'est Kagemusha, Palme d'or à Cannes. Bon, Ran, c'est un petit peu le même sujet, mais je vous lance la musique 2 ou 3 minutes et après, je vous dirai encore un dernier mot sur Kurosawa.
Thank you.
Alors, deux ou trois remarques avant de vous laisser. Il faut savoir que Kurosawa a cette dimension occidentale parce que son père l'a éduqué sur tous les domaines culturels et notamment sur le cinéma occidental. Donc, ce cinéma américain va marquer Kurosawa et il va petit à petit devenir plus important. Comme beaucoup, il sera assistant réalisateur et c'est après la guerre donc qu'il va véritablement faire aboutir son œuvre, hein, puisqu'il tourne ses trois ou quatre premiers films pendant la guerre. Mais après, l'œuvre aboutit dans le cadre de ses films postérieurs. Un élément de thématique qui revient chez Kurosawa, c'est la violence. La violence. Je dirais, si on peut comparer, c'est un petit peu comme Scorsese. C'est-à-dire une violence brutale qui va tout d'un coup se manifester de manière parfois très courte et conduire à un affrontement entre individus. Il y a dans les films comme Chien enragé ou comme Les Sept Samouraïs, bien sûr, où on assiste à une sauvagerie parfois. Et on peut dire que les deux films en forme de, comment on pourrait dire, en forme d'épopée, en 1980, Kagemusha, dans La Palme d'Or, et en 1985, Ran, sont des films, là encore, où la violence est présente et où le personnage principal se trouve face à cette violence, ces meurtres, ces guerres. Et cette violence, donc, est une des marques de fabrique de Kurosawa. Donc voilà pour cette œuvre qui était, je dirais, tout à fait originale et que je voulais vous faire partager par rapport donc à un cinéma qui est beaucoup plus connu. Kurosawa est un cinéaste classique qui tourne donc de 41 à 1941 à 1993 et dont les films sont d'une originalité vraiment incontestable. On ne peut pas faire autrement que de louer son cinéma et dire qu'il y a trois ou quatre films qui sont absolument essentiels. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Tiffaine Lemaine. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous!